RRB, le portrait de la semaine.
Lorsqu'un haut magistrat qui a participé à la création de juridictions spéciales et à la rédaction de textes de loi sur la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment se retourne sur son parcours, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il soit semé de concours de circonstances. Pourtant, le procureur général près la cour d'appel de Nouméa, Bruno Dalle, sans forcément qu'il s'y attende, a exercé des fonctions très diverses. Mais ça, c'est à son insatiable appétit pour la chose publique qu'il le doit. Bonjour Bruno Dalle.
Bonjour Gilles.
Dites-moi un petit peu d'où vous venez, de quelle région
Alors moi je suis né en Haute-Loire, mais en fait mes parents étaient immigrés administratifs dans Auvergne et moi je suis originaire du sud-ouest et plus précisément de Carcassonne.
C'est quoi immigré administratif ?
Bah, ça veut dire que vous savez, dans la fonction publique, on ne choisit pas toujours sa destination. Et donc, mon père qui travaillait pour les services des finances a eu son premier poste à Brioude, dans la Haute-Loire. Et après 6 ans de travail acharné, un petit bébé est né. Et donc, je suis né en Haute-Loire, mais il a immédiatement déménagé pour rejoindre le sud-ouest, la région d'origine de mon père et de ma mère.
Vos parents étaient donc dans la fonction publique ?
Non, ma mère travaillait dans le secteur privé comme assistante de direction comptabilité dans le privé. Mais elle a arrêté de travailler quand ma sœur est née, puisqu'on est garçon et fille. Et mon père, effectivement, était fonctionnaire de l'administration des impôts.
Vous rêviez à quoi quand vous étiez un tout jeune homme ?
Alors moi, il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient. Le sport automobile, les rallyes, la politique et puis... les films de policiers, et donc je rêvais d'être commissaire de police.
Et donc ?
Mais vous voyez, on réalise imparfaitement ses rêves. Cela dit, à un moment donné, j'ai dirigé un service que j'ai créé qui s'appelle le Service National de Douane Judiciaire. Et comme je disais en plaisantant, j'étais magistrat, je faisais un boulot de commissaire de police et j'étais payé comme un inspecteur des finances. Donc finalement, d'une certaine manière, j'avais réalisé certaines de ces ambitions.
Et alors votre vocation pour la magistrature, est-ce que c'en est une déjà ?
Non, parce que j'ai jamais eu la vocation pour rien, moi, à part la course automobile. Mais comme vous l'avez compris, ça s'est arrêté vite, sans sortie de route. Mon intérêt, c'était la chose publique. Donc il y avait beaucoup de sujets qui m'intéressaient. Et j'ai toujours été, d'ailleurs, sur des préoccupations liées au droit, à l'économie. Et ce qui m'a toujours intéressé, c'est la pluridisciplinarité. Et à cette époque-là... Quand j'étais en fac de droit, j'avais de bons résultats et les profs me demandaient pourquoi je voulais pas faire avocat ou magistrat. Et moi, à cette époque-là, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de regarder les fonctions type administrateur, inspecteur des finances, et donc ça nécessitait de faire l'ENA. Et du coup, j'ai orienté mes études sur droit plus Sciences Po à Paris, la prépa ENA, et j'ai passé 2 concours, l'ENA que j'ai pas eu et l'école de la magistrature que j'ai eu, parce que Richard Descoings, qui était à l'époque mon maître de conférence, m'avait dit « Oh, l'ENA, on s'ennuie, la magistrature, très jeune, on a des responsabilités. » Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à passer la magistrature. Et il y a un autre facteur qui a joué, c'est que j'avais été profondément marqué par l'assassinat du juge Michel, et j'avais lu un bouquin qui racontait sa vie, un bouquin d'un auteur qui s'appelle, je m'en souviens encore, Alain Laville. Et si on doit parler de vocation, ou en tout cas d'intérêt, c'est à ce moment-là que ça s'est créé sur le métier de juge d'instruction, et c'est d'ailleurs la première fonction que j'ai exercée dans la magistrature.
Puis alors après, ça évolue en fonction des postes, en fonction de vos intérêts, comment ça marche ?
C'est souvent des concours de circonstances. C'est-à-dire quand je suis juge d'instruction à Abbeville, alors Abbeville, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au nord de la Loire, et la seule chose que je connaissais, c'est qu'il y avait une équipe de foot de 2e division, et puis après j'ai découvert la baie de Somme, c'est formidable, mais au bout de 3 ans, moi j'avais envie d'être juge d'instruction à Marseille, comme mon modèle, ou en tout cas la référence juge Michel et puis d'autres juges, et la lutte contre la criminalité organisée. Et quand je vais au service RH, enfin qui ne s'appelle pas comme ça, et du ministère de la Justice, on me dit « Ah ben non, il faudra attendre encore 5 ans d'ancienneté ». Donc je ne me voyais pas 5 ans de plus. Et puis il se trouve que quand on a, à l'école de magistrature, en rang de classement dans le premier tiers, on est éligible à des fonctions au ministère. Et du coup, par contact et par ce classement, j'ai pu aller à la direction des affaires criminelles et des grâces, où je voulais m'occuper de lutte contre la criminalité organisée. C'est pas arrivé tout de suite, mais au bout de 2 ans, je me suis retrouvé chef du bureau chargé de la lutte contre la criminalité organisée. Puis après, on l'a fusionné avec le terrorisme. Donc j'avais le terrorisme, la criminalité organisée, le blanchiment, et tout ça dans les années 2000, c'est-à-dire au moment où il y a eu les attentats du 11 septembre et il a fallu changer la législation française en matière de terrorisme, et au moment où on a préparé, enfin j'ai préparé la loi Perben 2 qui a créé les juridictions interrégionales spécialisées. Donc moi, je voulais être juge d'instruction à Marseille, je me retrouve au ministère et je participe à créer des juridictions spécialisées, et après je me retrouve à devoir compléter ce parcours en dirigeant un nouveau service que j'ai évoqué tout à l'heure, le service de douane judiciaire, qui a travaillé beaucoup pour les GIRS. Donc tout ça est un peu lié, mais je ne pouvais pas dire, quand je suis rentré à la magistrature, je voudrais être patron de la douane judiciaire, même si la loi prévoit que c'est un magistrat qui est à la tête de ce service, parce que ça n'existait pas. Voilà, donc après, il y a eu d'autres étapes, mais des étapes qui étaient souvent des étapes de concours de circonstances. Quand je suis au ministère, on me démarche pour aller responsable du service juridique de Tracfin. Ça ne se fait pas, parce qu'on me garde au ministère et on me donne la douane judiciaire, et 10 ans après, je me retrouve patron de Tracfin. Quand je suis procureur à Melun, quand je quitte, j'ai envie d'être procureur général à Nouméa, ça se fait pas, et 10 ans après, je me retrouve procureur général à Nouméa. Donc finalement, il y a des concours circonstances, mais on les cherche un peu, ces circonstances.
On imagine que dans ces années 2000, enfin les années justement des changements de législation en matière de terrorisme, vous avez des souvenirs particuliers, vous avez des choses qui vous ont marqué quand même.
Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'attentat du 11 septembre. Alors, c'est vrai que ça fait ancien maintenant, parce qu'il y a eu malheureusement le ciblage de la France depuis. Et quand j'étais à Tracfin, j'ai été marqué aussi, parce que je l'ai vécu en direct par le 13 novembre. Mais j'avais été aussi marqué par les attentats du Thalys d'août. Et à chaque fois, ces émotions-là obligent à prendre un peu de recul, à débriefer ce qui s'est passé et à voir comment, non pas on peut éviter ça, mais comment on peut améliorer les outils de lutte. Et très clairement, à l'issue du 11 septembre, j'ai travaillé sur un dispositif de renforcement de la structure antiterroriste française qui avait été finalement créée très tardivement, hein, puisqu'elle n'avait été traitée qu'à la fin des années 80 avec la création de la 14e section du parquet de Paris et 4 juges d'instruction spécialisés. Et puis, sous la poussée de l'initiative du ministère de la Justice, on a réussi à avoir un 5e juge spécialisé en matière financière, parce qu'un des éléments nouveaux de la stratégie, c'était l'approche financière. Et donc moi, j'ai contribué à créer le délit de financement du terrorisme qui n'existait pas dans notre législation. Les attentats, c'est le 11 septembre, et on a une loi de novembre 2001, 15 novembre, qui contient des dispositions qui, vous voyez, entre le 11 septembre et le 15 novembre, ont été mises sur la table. Il y a eu un accord politique au plus haut niveau entre le président de la République de l'époque et le Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac et Lionel Jospin. Donc comme quoi, des fois, on peut travailler ensemble avec des couleurs politiques différentes dans l'intérêt national, pour des dispositions qui sont des dispositions qui existent encore, hein, sur la conservation des données de connexion, sur le délit de financement du terrorisme, sur le renforcement de la législation antiterroriste, et tout ça avec des amendements à une loi qui n'était pas conforme à la procédure parlementaire, et il y a eu un accord politique pour qu'il n'y ait pas de saisine du Conseil constitutionnel pour que ça passe. Donc voilà, donc travailler dans l'urgence, c'était avoir des idées. Pour vous dire et vous faire une confidence, 3 mois avant les attentats, j'avais proposé qu'on change la législation et on m'avait dit la complicité suffit, le financement, il n'y a pas besoin de l'incriminer. Après le 11 septembre, les choses ont changé. Il y a une résolution des Nations Unies du 28 septembre qui prévoyait d'inciter tous les pays du monde à transposer une convention des Nations Unies que personne n'avait vue, mais qui prévoyait la répression du financement du terrorisme. Le groupe d'action financière s'était réuni à Washington, j'y étais d'ailleurs, pour créer 8 nouvelles recommandations spéciales en matière de lutte contre le financement du terrorisme. Et tout ça se décline encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'ensemble des pays du monde. Voilà. Donc comment réagir à un événement? C'est ça qui est intéressant aussi dans la fonction d'administration centrale, c'est de pouvoir contribuer à adapter le dispositif juridique et judiciaire, et c'est ce que j'ai fait aussi sur la lutte contre la criminalité organisée.
Alors, vous disiez tout à l'heure que vous étiez candidat pour le poste de procureur général à Nouméa, ça s'est fait finalement 10 ans plus tard. Pourquoi Nouméa? Pourquoi vous étiez candidat?
Alors oui, il faut être déterminé, obstiné, têtu. Enfin bon, non. En fait, c'est à la fois un coup de cœur parce que j'étais venu en vacances en 2006-2007 et j'avais trouvé ce territoire passionnant, intéressant, intrigant et je m'étais dit je reviendrai bien. Et puis quand j'étais procureur à Melun, j'avais fait un certain nombre de demandes de poste et parmi ces postes-là, il y avait procureur général à Nouméa. Mais à l'époque, il y avait des autorités politiques qui considéraient qu'en tant que vice-président puis président de la conférence des procureurs, j'étais peut-être pas totalement en phase avec la politique du gouvernement de l'époque. Et donc j'ai senti que ça serait compliqué pour moi d'avoir un poste de procureur général. Et puis 10 ans après, j'ai fait beaucoup d'autres choses entre-temps, hein, puisque j'ai été directeur de TRACFIN, j'ai été directeur régional des finances publiques, donc à la DGFiP pour la région Centre-Val de Loire. C'était l'occasion ou pas de revenir pour la justice. Et comme cette demande était toujours cochée dans les bases de données et que le poste s'est libéré, parce que mon prédécesseur est resté 7 ans, donc il a désespéré des générations de candidats. À ce moment-là, les conditions faisaient que j'avais plus d'ancienneté, plus d'expérience, et que donc j'étais le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé. Donc finalement, j'ai pas beaucoup de mérite.
Alors, vous avez une expérience très importante en matière justement de financement du terrorisme en général, etc. Puisque vous avez même participé à la rédaction d'un certain nombre de textes de loi. Comment vous vivez la période qu'on vit en ce moment?
Moi, je pense que je suis comme tous les gens qui vivent, qui sont originaires ou pas sur ce territoire. Je la vis mal. Je la vis mal parce que justement, si j'étais venu, c'est parce que j'avais eu une idée peut-être angélique de ce territoire. Mais moi, quand j'ai essayé de convaincre ma femme de m'accompagner, je lui ai dit, tu verras, la Nouvelle-Calédonie, c'est le paradis, c'est le multiculture. On a aussi tout à construire sur le plan économique. Il y a une place de la justice assez particulière, puisque depuis 40 ans, on a inventé ici des trucs qui mériteraient d'ailleurs d'inspirer la justice métropolitaine, comme les assesseurs citoyens. On a un lien avec la coutume, on a transféré des compétences. Et puis patatras, sous l'effet d'une situation politique bloquée, sous l'effet d'une situation économique et sociale difficile, tout explose. Et je comprends que les gens se sentent terrorisés.
La charge de travail est considérable. Il faut répondre évidemment à l'inquiétude des gens, c'est ça le principe.
Le principe, c'est pas que l'inquiétude, c'est les demandes de droit. C'est-à-dire que si on veut qu'une société soit apaisée, le principe de la justice, c'est d'éviter les règlements de compte et que chacun se fasse justice à lui-même. Or ici, il y a une tendance à vouloir régler les choses de manière rapide et brutale. Et puis, il y a un point commun à ce qui existe aussi en métropole, mais qui est exacerbé sur ce territoire, c'est qu'on focalise sur cette justice que certains considèrent comme coloniale et d'autres comme laxiste. Et donc, nous, notre chemin, c'est un long chemin, c'est de démontrer notre impartialité, de bien veiller à ce que tout ce qui est fait en application stricte de la loi, et de veiller aussi à être pédagogue dans les décisions et adapté à cette situation. Et croyez-moi, c'est un défi permanent parce que de chaque côté, il y a des volontés de déstabilisation, d'instrumentalisation, de mise en cause individuelle des acteurs de la justice, ce qui est inacceptable.
Il y a un certain nombre de caricatures, et vous le savez, qui circulent dans l'opinion publique sur la justice. Qu'est-ce qui vous agace le plus finalement? C'est quand on dit que la justice est partiale, quand on dit qu'elle est lente, qu'est-ce qui...
Bon, j'ai passé l'âge de m'agacer parce que j'en ai vu tellement que ça fait partie du métier. Et je me souviens dans ces cas-là de ce que disait un grand ancien, Pierre Truche. Il disait, vous savez, vous avez le monopole de la violence légitime, il vous faut de la conscience, il vous faut du recul. Et puis si vous êtes critiqué finalement pour les décisions que vous rendez par les deux parties, c'est que finalement la décision était peut-être juste.